Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
Oh, qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie ? L'enthousiasme, peut-être. L'envie de comprendre comment ça marche. Voilà, je sais pas, moi, il y a beaucoup d'autres choses qui me... Oui, l'envie de comprendre, c'est un truc important, quand même. Et puis, qu'est-ce qui me fait marcher d'autre ? L'envie de découvrir des choses nouvelles, aussi. Je parle pas simplement d'un point de vue professionnel, hein. Je suis un voyageur assez avide. J'aime beaucoup découvrir des endroits nouveaux, des gens nouveaux, des coutumes nouvelles, des manières de penser nouvelles, donc voilà. J'aime bien la nouveauté, quoi, aussi.
Bonjour, François Bouchet, cosmologue à l'Institut d'astrophysique de Paris, était en octobre 2013 l'invité de la Société d'astronomie de Nantes pour présenter les premières observations cosmologiques relevées par le satellite Planck. Nous l'accompagnons dans la rue.
Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser, on va dire, à l'origine de l'univers, en résumant ?
C'est un peu par hasard, au sens où... Ça faisait partie d'une série d'interrogations, mais ce n'était pas la seule. Quand j'étais, je ne sais pas moi, une dizaine d'années, ce genre de question, c'est comment ça se fait qu'on pense, comment ça se fait qu'on a conscience de soi, comment ça se fait que... Enfin bon, c'était une des questions, et puis il y en avait d'autres sur, je ne sais pas moi, les lois du monde, après, enfin, y avait tout un tas de questions, et puis, bon, bah, j'ai été faire des études de sciences, et puis après, j'ai été faire un peu de physique théorique, et puis j'ai cherché une thèse, et donc j'ai regardé dans des tas de domaines. Et puis, j'ai attendu qu'il y ait un déclic, et il y en a eu un, il y a quelqu'un qui m'a proposé une thèse, je me souviens encore, qui m'a dit, et alors, enfin, il m'avait déjà proposé des choses, et ça ne me plaisait pas. Enfin, celui qui allait devenir mon patron de thèse. Puis un jour, il m'a dit, mais bon, d'accord, tu dis que ça te plaît pas, mais qu'est-ce que tu dirais si on regardait ensemble la croissance des fluctuations primordiales et la formation des galaxies ? Alors j'ai dit, ah bah ça, c'est bon, allez, banco, on y va. Et puis, bah voilà, donc, si ça avait été... Ça aurait pu être un petit peu une autre approche, mais... Bon, j'avais bien vu, j'avais regardé les thèses en physique des particules, tout ça, c'était un truc, c'était des grosses manies, puis il fallait être... Enfin, c'était pas mon truc, quoi. Voilà, donc, s'il y a une... Il y a une part de hasard qui sont les rencontres avec des gens. Et puis il y a la partie plus déterminée qui était qu'il y avait définitivement un certain nombre de questions qui m'intéressaient jeune. Voilà, donc c'est à la fois la rencontre entre le questionnement d'un gamin qui s'intéresse à des questions auxquelles il ne peut pas aborder par lui-même, tout seul. J'étais aussi un petit peu jeune pour lire par moi-même la littérature, mais il y avait l'envie, voilà. Puis après, c'est un peu le hasard.
C'est d'abord l'instinct de curiosité ou c'est une aptitude à bien évoluer dans le domaine de la physique et de la mathématique ?
Non, c'est d'abord la curiosité. Non, c'est la curiosité première. J'avais la même curiosité. Cette curiosité-là aurait pu m'amener à devenir archéologue. Ou d'ailleurs anthropologue. Non, la curiosité est le point de départ. Après, c'est des... il faut bien développer un peu de technologie. Bon, j'avais été assez fasciné. Je me souviens, c'était un livre de quoi ? C'était une collection, c'était Time Magazine, je crois. Ils avaient un numéro sur les mathématiciens qui m'avait fasciné. Enfin, mathématicien et physicien théoricien. Non, c'était les deux. Et moi, je trouvais que ces gens qui perçaient les secrets du monde... ou apparemment en discutant dans des chaises longues au ski, je trouvais que c'était vraiment très très bien. Bon, évidemment, j'ai découvert un peu après que oui, on peut éventuellement passer quelques heures dans une chaise longue, mais que il y a pas mal de sueur et de transpiration qui est entre les deux séances de chaise longue avec ses collègues. Mais ça, on le découvre après. mais je trouvais que quand même, c'était... Ça avait un certain panache d'être une sorte de... oui, côté vie de gentleman, entrepreneur en questionnement scientifique, ça me paraissait une bonne manière de mener sa vie, quoi. Voilà. Donc je trouvais que ce mode de vie me paraissait assez bien. Et d'ailleurs, en fait, c'était pas vraiment de la truande, parce que ce mode de vie-là, c'est effectivement un peu le mode de vie que j'ai. Mais on oublie... effectivement, on voyait pas l'autre partie qui est moins... peut-être un peu moins séduisante. C'est comme si on parlait d'un musicien... Et qu'on ne voyait que quand il est en concert et pas les heures qu'il passe à faire des gammes tous les jours. C'est un peu ça.
Je suis avec François Boucher. Qui est, alors, pour le présenter, parce que je veux savoir si ça vous parle, qui est spécialiste des structures à grande échelle de l'univers, également de l'étude des anisotropies du fond diffus cosmologique, de simulation numérique de la formation et d'évolution des galaxies. Voilà, monsieur.
Il faut une très grande carte de visite pour mettre tout ça dessus.
Ça vous parle, non ?
Non, absolument pas.
Vous inquiétez pas, je mets pas ça sur ma carte de visite, je suis pas fou. À la limite, je pourrais dire cosmologue. Et à ce moment-là, c'est plus simple, mais à ce moment-là, vous risquez de me poser des questions pour savoir si je m'intéresse aux comédons ou aux choses de ce genre. Donc, je ne suis pas astrologue non plus. Donc voilà, je suis astrophysicien. Et je suis un astrophysicien dont la spécialité est l'étude de l'univers.
Parfait, excellent.
Et de son histoire. Voilà.
Bien connu un gars qui bossait à l'observatoire de Meudon.
Oui, alors qui ?
C'était Biraud, il s'appelait.
C'est pas quelqu'un que j'ai connu personnellement.
Astrophysicien aussi.
Bah, on est un certain nombre.
Il avait bossé aussi avec la NASA, notamment sur le système de détection de l'espace des chauves-souris.
Qui fait que les
chauves-souris ne se butent jamais dans quoi que ce soit, parce qu'elles ont une espèce de système de radar extrêmement développé.
Oui, ça marche très bien, effectivement.
Ah ouais.
Vous êtes au fait des dernières actualités en matière de découvertes et de résultats
Non, je sais pas, j'ai vu dans Le Monde qu'on en était à plus de 1000 exoplanètes.
Alors ça, c'était il n'y a pas longtemps, c'était Le Monde d'avant-hier. Alors, mais si vous êtes un lecteur du Monde, vous avez peut-être remarqué que nous avons que le satellite Planck a fait la une du Monde avec l'image de l'univers primordial. Ça, c'est nous. Et donc, nous avons fait... Enfin, c'est comme une déclaration de guerre. On avait la complète sur, je ne sais plus, N colonnes. Mais c'était suffisamment important pour que ça soit aussi la une du Financial Times, du New York Times. C'était sur CNN. Enfin voilà, ça a fait un peu de... Ça a été un peu remarqué.
C'est une expérience à
pilotage français.
Ah ouais. Moi, quand je lis ces articles sur l'univers, ça me laisse complètement...
Pensif, pantois.
Oui, rêveur. Parce que je ne suis pas croyant.
Oui.
En même temps, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, quoi. Quand on se dit que on regarde au-dessus et que ça ne s'arrête jamais, enfin, même si ce n'est pas certain, est-ce que l'univers est fini ou infini ? À l'heure actuelle, il y a des théories qui... mais quand même, la notion même d'année-lumière, etc., on a... nous qui sommes extrêmement finis dans le temps et dans l'espace, c'est quand même des choses qu'on a du mal à conceptualiser, quoi.
Oui, mais bon, il se trouve que c'est bon. Il y a une phrase qui parle de l'efficacité déraisonnable des mathématiques et plus généralement de l'approche scientifique. Ça paraît dément d'une certaine manière qu'on puisse aborder des sujets de cette nature-là avec nos petits outils. Mais il se trouve que ça marche assez bien. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on pouvait postuler au départ en disant, voilà, avec quelques idées simples, avec les lois de la physique, tout ça, on va mettre un petit peu d'ordre et finalement commencer à construire un modèle de l'histoire de l'univers et puis le tester et puis voir que ça prédit des choses qu'on observe après en pointant un télescope. C'était pas garanti du tout à l'avance. Il se trouve que depuis un siècle, on a fait des avancées phénoménales et que on a construit un cadre conceptuel qui marche assez bien, c'est-à-dire qu'il y a même des choses qui ont été prédites très longtemps avant d'être observées, oui, sur la base...
Comme le boson de
Higgs. Alors le boson de Higgs, ça oui, ça c'est l'autre découverte de l'année, mais c'est un petit peu autre chose, il a fallu...
Parce qu'ils avaient quand même prévu le truc, ouais, avant d'avoir pu le vérifier.
C'est même prévu il y a plus de 40 ans, ouais, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu deux grandes nouvelles cette année, il y a le boson de Higgs et puis les avancées du satellite Planck, qui sont arrivées la même année. Et dans les deux cas, c'est tenter d'aller mesurer des choses qui ont été inventées, imaginées. Alors dans les années 70 pour le boson de Higgs, plutôt un petit peu plus tard, dans les années 80 pour ce qu'on appelle l'inflation, enfin une phase dans l'histoire de l'univers primordial disons ce qui a démarré la croissance, les grumeaux primordiaux. Voilà. Alors ça, on pense qu'on commence à en voir la trace dans le ciel, là-haut. Ça aussi, il a fallu beaucoup de temps, mais en pratique, on les voit, on les mesure, et on mesure des propriétés qu'on cherchait à mesurer depuis très longtemps. Donc en fait, c'est assez proche, il y a un parallèle, sauf que dans un cas, on regarde le très très grand, et dans l'autre cas, on regarde le très très petit. Mais ça se rejoint un petit peu.
Grosso modo, c'est une image de l'univers quand il avait 380 000 ans.
Oui.
Et on y voit quoi? Une grosse sphère avec des points orange-vert là.
On voit une grosse sphère.
Comment on arrive à interpréter une image comme celle-là?
Le fond du ciel. Ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique de fond. C'est-à-dire c'est le fond du ciel qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui, avec des appareils spéciaux, se révèle parce que c'est quelque chose, c'est une des radiations auxquelles notre œil n'est pas sensible. Il y en a plein, l'infrarouge, l'ultraviolet, tout ça, on n'est pas sensible. Ce fond du ciel, il se mesure, et on peut déduire de ce qui vient d'il y a très très longtemps, de ce qui a mis presque tout l'âge de l'univers pour nous parvenir. Et ça, c'est en gros des petites taches qui sont la trace des grumeaux primordiaux. Voilà, on voit un coin d'univers il y a très très longtemps, et on en fait la cartographie. Et ça, c'est pas de la théorie, c'est on mesure des choses. Et après, la théorie nous permet d'interpréter et de constater que les grandes lignes de ce qu'on observe sont telles qu'attendues dans un certain modèle du monde. Voilà. Et donc après, on en tire des choses.
Ce que je trouve assez fascinant, c'est le Big Bang.
C'est relié.
Et ce qu'il y avait avant.
Alors là, vous allez louper votre train. Faites attention. Moi, je veux bien qu'on aborde la question, mais là, vous avez un billet modifiable.
Non, il faut que je rentre. Mais c'est l'histoire de la poule et l'œuf, là, un peu.
Oui.
Et bon, c'est... Mais ça pose trop de questions, là. Effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge.
Bon,
il faut que j'y rentre.
Votre prénom, monsieur ?
Richard.
Richard. Merci, Richard, pour ce petit moment.
Au plaisir.
Juste un mot sur donc ce satellite Planck.
Eh bien, c'est un satellite de l'Agence spatiale européenne dont le concept de mission a été sélectionné en 96. Donc, on a construit depuis, et son objectif est de faire la cartographie, donc le relevé, si vous préférez, du fond du ciel. Dans des longueurs d'onde ou des fréquences, comme vous préférez, enfin, des longueurs d'onde qui correspondent aux millimètres. Donc, grande par rapport aux longueurs d'onde optiques. Et parce que c'est dans ces longueurs d'onde-là que un certain rayonnement, qui est un rayonnement fossile, qui témoigne d'une période beaucoup plus chaude et beaucoup plus dense dans l'histoire de l'univers, se révèle le plus facilement, enfin, et même dominant. Et donc, il se trouve qu'on savait, suite à d'autres expériences qui avaient précédé, que ce fond de ciel contient des variables, et pas le même exactement dans toutes les directions, Et que ça, on comprend, on sait que c'est a priori la trace dite des grumeaux primordiaux, ceux qui ont initié la croissance de la complexité dans l'univers. Parce qu'il faut bien que, bon, on dit l'univers est en évolution, on voit autour de nous des galaxies, tout ça, mais il faut bien que ça parte de quelque chose. Et bien voilà, on a été photographié un morceau très lointain de l'univers, tel qu'il était au moment où il n'y avait encore que des grumeaux. Et évidemment, vous allez me dire, mais comment on fait ça? Bah, simplement, on regarde un endroit qui est tellement lointain que la lumière a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de milliards d'années pour nous parvenir. Et donc, on regarde cet endroit-là tel qu'il était il y a très longtemps. Voilà. Donc, on ne regarde pas notre passé directement, mais on regarde un endroit très loin tel qu'il était dans le passé. Et ça, ça se mesure en regardant le fond de ciel.
Vous avez dit a priori.
Je sais pas, ça devait être une cheville, je me souviens plus, a priori, pourquoi j'ai dit a priori?
Je sais pas, on y va, et puis pour regarder
pas,
a priori.
J'ai eu peur de... c'était peut-être le moment où j'ai failli me faire écraser.
Parce que là, on est dans l'ordre de la certitude.
Oui, mais enfin, en 80, au moment où on a pensé rêver satellite, c'était en 93, on avait que des contours très flous et très incertains, et donc... on ne savait pas encore exactement ce qu'on allait trouver, parce que sinon on n'aurait pas fait l'expérience. L'expérience était justement pour avoir le détail, et on était certain qu'on allait voir des choses. La question c'était de quelles étaient exactement ces choses, leurs contours, leurs contrastes. Et c'est ça qu'on a annoncé au monde il y a quelques mois.
Alors on va d'abord parler de l'image que j'ai vue. Quand je parle de sphère, c'est simplement une représentation sur le papier.
Oui, bien sûr, on pourrait parfaitement le représenter. Enfin, la bonne manière, c'est de s'imaginer dans un planétarium ou à l'intérieur d'une géode et que ça soit projeté à l'intérieur. Hein. C'est ça la bonne. Après, ce n'est qu'une histoire de représentation. Après, si au lieu de le projeter à l'intérieur d'une sphère pour représenter la voûte céleste, vous préférez imaginer qu'elle est très transparente et vous en faites une map monde et vous imaginez que vous le regardez de l'extérieur, bon, c'est une manière de représenter. Puis vous pouvez aussi. Prendre ce qui est sur cette map monde et faire comme une carte géographique et l'étaler sur une carte avec toutes les déformations d'ailleurs qu'il y a quand on met à plat une carte qui vit sur la sphère. Mais ce n'est que des représentations d'un relevé qui lui est le relevé du fond du ciel.
Mais c'est pas neutre la forme sphérique telle qu'elle est diffusée dans le monde entier.
C'est pas neutre au sens... Je sais pas, au sens esthétique peut-être, mais enfin...
Vous êtes un expert, mais moi, quand je vois ça, j'ai l'impression d'avoir un contour fini.
Oui, vous voyez un ovale qui ressemble à un ballon de rugby, absolument. Mais ça, c'est justement la chose qu'on doit faire, c'est expliquer en quoi ceci est peut-être un petit peu trompeur. Il faut apprendre à lire cette image. C'est un peu comme la musique. La musique, on apprend à écouter. Eh bien, cette image du fond du ciel, il faut apprendre à la décoder. Et donc la première chose, c'est cet ovale, ce ballon de rugby, il faut avoir ça dans la tête, que ce qu'on voit, c'est le développé de ce qui est sur la sphère. Puis après, il y a d'autres choses, ces petites taches. L'œil, il va falloir apprendre à l'œil ce qu'il voit exactement quand il voit ces petites couleurs qui ne font que traduire, disons, le relevé des propriétés physiques qu'on a cartographiées. Hein, donc ça c'est une autre chose. Et puis après on va aussi apprendre à l'œil encore d'autres choses, à regarder les choses à différentes échelles, enfin comme le font un astrophysicien qui finalement voit beaucoup de choses dans cette image, mais parce qu'il s'est éduqué l'œil et il a utilisé un certain nombre d'outils. Mais c'est un peu la même chose, vous imaginez que vous donniez une carte, y compris du globe terrestre, à quelqu'un au 10e siècle. Imaginez ce que je veux dire. En plus avec l'Amérique, etc., qui a fait des tas de choses qui n'existaient pas, qu'est-ce qu'il en aurait fait? Il aurait fallu lui éduquer l'œil, longuement. Bon, ben voilà, moi, ma conférence, c'est notamment pour expliquer comment on a obtenu cette carte et essayer de faire un peu d'éducation de l'œil pour dire, ben voilà, qu'est-ce que nous, cosmologues, enfin astrophysiciens, cosmologues, y voyons et donc qu'est-ce qu'on en tire sur le récit du monde.
Les résultats.
Ce qui apparaît en premier lieu, c'est la confirmation, en gros, des grandes lignes de, disons, du scénario ou de l'histoire qui a été construite, y compris grâce aux expériences précédentes et aux théories qui ont été développées. Donc, ça, c'est la première partie. Et notamment, on confirme quelque chose qui était une prédiction faite il y a très longtemps, dans les années 80, par quelqu'un qui est toujours vivant, hein, qui disait « Une des manières de comprendre comment les grumeaux primordiaux ont été formés, c'est de penser qu'ils sont apparus comme au cours d'une phase de dilatation extraordinairement rapide de l'univers, et que ce qu'on voit vraiment, en fait, c'est d'origine quantique, c'est des fluctuations d'un milieu, avant même que la matière et la lumière existent, on observe des fluctuations du vide, qu'on appelle quantique, et ça propose donc une origine des fluctuations. Bon, alors ça paraît un petit peu difficile, mais toujours est-il que sous cette hypothèse-là, on en déduit un certain nombre de caractéristiques de ce fond du ciel. De caractéristiques qu'on peut mesurer avec des outils. Et donc, un des grands enjeux, c'était de dire, ben voilà, est-ce que cette propriété prédite dans les années 80, est-ce qu'on peut la mettre en évidence en faisant une image très très précise, qui ait beaucoup de qualité en termes de la précision de son rendu, enfin bon, il y a un certain nombre de qualités techniques. Et donc, ce qu'on a fait véritablement, c'est établir, maintenant, au-delà du doute, que cette relation, cette propriété prédite dans les années 80 est bien là dans le fond du ciel. Alors, donc ça, c'est la partie confirmation.
Ce qu'on avait prédit, c'était grosso modo, c'était quoi ?
Ah, alors, ce qu'on mesure, en gros, il faut imaginer que, en fait, ça ressemble un peu à la surface de la mer, ce qu'on observe là-haut. C'est-à-dire que vous observez des sortes de vagues, enfin, c'est des vagues d'une quantité abstraite hein, de température. Mais vous imaginez avec des couleurs, des choses qui sont... Vous imaginez qu'en fonction de l'endroit où on regarde, vous voyez quelque chose qui est plus ou moins intense, plus ou moins contrasté, d'accord ? Et puis avec des taches un peu à toutes les échelles. Et donc on peut se poser la question, finalement, quel est le contraste des taches en fonction de leur taille ? Voilà, vite dit. Et ces prédictions étaient pour dire, on s'attend à ce que le contraste ne soit pas exactement indépendant de l'échelle, de la taille des taches. Mais c'est une toute petite déviation par rapport à l'identité en fonction de l'échelle. C'est de quelques pourcents, c'est quelque chose de très faible, ce qui explique qu'en dépit des efforts qui ont été développés depuis des années pour faire cette mesure, on n'en était pas encore certain. Donc voilà, ça c'est la première partie. Donc on a établi de manière maintenant... au-delà du doute, raisonnable en tout cas, qu'il y a un certain écart qui était celui attendu. Une certaine propriété du contraste en fonction de la taille des taches. Alors après, est-ce qu'on a continué à regarder dans le détail si d'autres prédictions de la théorie, parce que ça c'est le contraste des taches, c'est une des choses, alors on peut regarder par exemple... Quand on regarde les taches en trois points différents, quelles sont les propriétés de ces taches en trois points ? Là aussi, il y avait des tas de théories qui prédisaient des choses différentes dans le détail. Ce qu'on a trouvé, c'est que en fait, c'était les prédictions de la théorie, disons, la plus simple, qui marche, c'est-à-dire, en gros, quand on regarde sur la troisième tache, on n'apprend rien de plus. Alors ça, c'est pas du tout évident, hein, c'est... Il y a des théories qui prédisent qu'on apprenne des choses supplémentaires, c'est-à-dire qu'en étant assis sur une troisième tâche, enfin un troisième point de la sphère, on peut prédire un peu en fonction des distances entre ces trois points. Et ce qu'on a vu, c'est que non. Donc voilà, ça c'est une autre. Donc ça a éliminé de grandes quantités de modèles détaillés sur quelle est l'origine des fluctuations primordiales. Donc ça c'est une deuxième catégorie de résultats. Il y a une troisième catégorie de résultats qui est de dire, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune anomalie ? Est-ce que tout est attendu comme prévu ? Alors d'abord, on n'a pas tout mesuré. Ce n'est pas la mesure finale qu'on a faite. On a analysé, pour vous donner un ordre de grandeur, 500 milliards d'échantillons qu'on a collectés du ciel. Il en reste 400 milliards à traiter, qu'on est en train de traiter en ce moment. Et puis on n'a pas traité certaines propriétés de ces échantillons qu'on appelle la polarisation du ciel. Bon, ça paraît peut-être un petit peu mystérieux, mais il y a une partie des informations qu'on n'a pas encore traitées. Donc d'abord, ce n'est pas encore la fin de ce qu'on a à dire. Et donc on va continuer à arpenter le ciel, si vous me permettez. Mais ce qu'on a déjà vu, d'ores et déjà, c'est donc ce que je vous ai expliqué sur les deux points précédents. Puis on a vu aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme attendu. Pas au point de dire on ne comprend rien ou ça ne marche pas du tout, etc. C'est juste que dans le cas de l'histoire standard, de la théorie développée, etc., il y a une certaine type de propriétés qui ne sont pas très probables. Disons que si on jetait un dé, eh bien c'est un univers sur 100 qui a ce type de propriété qu'on observe. Un univers sur 100, ce n'est pas suffisant pour bouleverser. Je veux dire, si vous jouez au dé, vous allez de temps en temps tirer quelque chose qui a une probabilité d'un sur 100. Mais c'est suffisamment rare pour qu'on le note. Donc il y a un certain nombre de ce type de propriétés-là qui sont remarquables au sens que ça attire l'attention. Voilà, on dit ça, c'est pas très probable. C'est un signal qu'on a adressé aux théoriciens en disant, regardez bien dans vos modèles, si vous avez un modèle qui produit ce genre de choses assez naturellement, faites-le nous savoir, et plus important, écrivez-le à l'avance, et dites-nous s'il y a d'autres choses que dans notre paquet de 400 milliards d'échantillons qui restent, on pourrait peut-être trouver. Parce que dans ce cas-là, ça sera une prédiction de votre part, et donc là, ça sera quelque chose qui sera très très fort comme support de votre modèle. Si en revanche, vous vous contentez d'expliquer a posteriori, c'est-à-dire une théorie qui arrive et qui explique les faits une fois qu'ils sont mesurés, bon, c'est bien, c'est satisfaisant, mais ça n'a pas le même parfum d'incontournabilité. Donc en ce moment, on a expliqué qu'il y avait un certain nombre de points un petit peu surprenants qui nous paraissent être dans le ciel, qu'on a établi. Et en ce moment, j'ai beaucoup de collègues qui sont plutôt de théoriciens qui proposent des variations sur leurs modèles, etc., pour, en espérant être capable de prédire des choses qu'on dévoilera peut-être l'année prochaine.
Trois petites dernières questions, si vous voulez bien.
Ah, vous allez me tuer, là.
Mais ça nous enseigne quoi alors, fondamentalement
alors, ça
qu'est-ce qu'on apprend sur...
Ça nous apprend qu'on a un bon modèle, qui est un modèle... C'est un bon modèle, et donc c'est un modèle qui est maintenant validé pour continuer à travailler, prédire d'autres choses, chercher à expliquer au sein de ce modèle-là, dans ce cadre-là, d'autres choses qu'on cherche à comprendre. Parce que si vous n'établissez pas le modèle... C'est comme si vous n'aviez pas de loi de physique. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple simple. On utilise tous les jours les lois de Maxwell, qui sont les lois de l'électromagnétisme, pour concevoir des circuits électriques, pour concevoir de nouvelles machines. Mais ça, c'est parce que ça fait très longtemps qu'on a testé les lois de Maxwell dans tout leur retranchement, qu'on a vérifié que finalement, dans tout l'environnement quotidien, c'est des lois qui marchent parfaitement. Donc on peut s'en servir. Et quand on tombe sur un phénomène nouveau, on les met en œuvre. On pense qu'on connaît les lois, simplement ce qu'on ne connaît pas, c'est la manière de les mettre en œuvre pour expliquer ce phénomène-là. Donc vous voyez bien l'importance qu'il y a d'établir les lois, le cadre avec lequel on tente d'expliquer, les phénomènes. Bon, du point de vue de la cosmologie, vous avez besoin aussi d'un cadre explicatif. Vous ne pouvez pas simplement dire « je le pose et puis maintenant croyez-moi ». Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce modèle, vous le construisez pour qu'il soit en accord avec un certain nombre de faits, mais après vous cherchez à prédire des choses nouvelles pour voir si ce modèle tient. Tiens, est un modèle utile qui permet de fournir un bon cadre explicatif. Donc c'est très très important de tester le modèle et de savoir s'il se casse la figure quand on le confronte avec des faits nouveaux ou pas. Donc c'est ça qu'on fait. C'est pas juste dire finalement il se trouve que de manière absolument phénoménale et incroyable les faits trouvent leur place naturellement dans le cadre de ce modèle-là, c'est pas garanti au départ. Ça, c'est même très surprenant qu'un modèle aussi simple et qui s'est progressivement établi sur finalement peu de clés observationnelles au départ continuent, après des décennies d'investigation et de mise à l'épreuve, continuent à tenir. Bon, il y en a eu d'autres entre-temps qui sont morts, hein, qui ont été exclus. Donc c'est pas quelque chose de trivial du tout. Donc avoir développé un cadre explicatif et qui, quand on le soumet à l'épreuve des faits, de la critique, donc, tiens, ça veut dire qu'on a compris certains aspects du monde. C'est pas mal quand même.
Deuxième
Ah oui, il va falloir que je fasse plus court alors. Parce que, sinon, je vais plus être capable de parler tout à l'heure.
Hein, si, la preuve, vous avez une heure, deux heures. Non, juste rapidement. Mais là, vous pouvez donner une réponse courte. Dire oui, non ou jamais. Vous êtes un expert en simulation numérique.
Oui, aussi.
Donc, est-ce qu'un jour, une simulation numérique pourra valider un modèle supérieur numérique et on n'aura plus besoin d'observation? Est-ce qu'on arrivera à...
Non. D'abord, bon, les modèles numériques, ils peuvent servir à des tas de choses différentes, hein, c'est premièrement. Mais, disons, je vais vous donner quelques possibilités. Il y en a un, c'est un outil de théoricien pour développer des hypothèses qu'on n'arrive pas à faire parce que les mathématiques sont trop compliquées, donc on résout ça sur ordinateur. Mais c'est simplement développer une hypothèse théorique. Et c'est une manière de résoudre des équations. Donc ça, c'est purement de dire, ben voilà, si je mets telle loi ou tel machin et que dans l'ordinateur, voilà ce qui en sort. Donc c'est une sorte d'expérience numérique. Donc ça, c'est premier point, c'est outil d'expérience numérique quand on ne peut pas, par exemple, le faire dans le laboratoire. Il y a une autre utilisation des simulations numériques, c'est qu'on peut fabriquer un quasi-univers qui va permettre de prévoir à quoi vont, si on fait une observation, par exemple par un satellite, quels sont le type de données qu'on va avoir. Et ce que ça permet, de valider, par exemple, les tuyauteries d'analyse, les algorithmes d'analyse, etc. Puisque dans ce cas-là, on sait ce qu'on a mis dedans, la réalité qui est sous-jacente, puis on l'a transformée, on l'a mis telle qu'elle est observée par un instrument, avec ses défauts, etc. Et on regarde si on est capable de retrouver ce qu'on a mis au départ. Donc ça, c'est un outil de validation, disons, de traitement des données. Mais une simulation, c'est toujours qu'un modèle mathématique avec des lois qui ont été posées. C'est pas la réalité, c'est un modèle. Alors, c'est un modèle, mais qu'on peut développer, on peut tout avoir. Parce qu'un modèle d'univers, par exemple, que vous mettez dans l'ordinateur, il a des tas d'avantages, c'est que tout est observable. Vous n'avez pas les contraintes d'avoir un temps de télescope fini, d'avoir un certain nombre d'aspects de la réalité que vous ne pouvez pas observer parce que vous n'avez pas de sonde, par exemple, pour ça. Vous pouvez mettre des particules qui ont de la masse mais qui ne sont pas visibles, et pourtant vous savez où elles sont parce que c'est dans l'ordinateur, vous avez qu'à le mesurer. Donc ça permet de faire des tas de choses extraordinairement utiles, mais le modèle, ça reste un modèle. Alors après, on peut toujours utiliser, bien sûr, la simulation d'un système au sens de dire, ben voilà, si on a compris tel aspect, voilà le genre de choses qui se produit. Mais ce qu'on va pas avoir, c'est que... Alors, il y a plein de limitations, mais d'abord, on ne peut pas avoir toutes les conditions initiales de partout dans l'univers qui ne sont pas observables, donc déjà, on ne peut pas les avoir. Donc ça limite obligatoirement le côté reproduction à l'identique de l'univers. On peut être quelque chose qui ressemble. Donc ça, c'est un point. Et puis, il faut aussi savoir qu'il y a des tas de systèmes qui sont... Ou disons, il suffit d'une toute petite perturbation pour que le futur du système soit dans le détail très différent. Alors, on appelle ça souvent l'effet papillon du point de vue climatique, hein, où on dit que finalement, il suffit d'une petite perturbation à une échelle pour que le climat change complètement. Ça ne change pas les grandes lois. Vous pouvez quand même essayer d'avoir une idée du développement du climat, mais ça vous empêche de savoir où était le nuage à tel moment. Dans le cas de l'univers, vous pouvez avoir des simulations qui vous donnent une bonne idée du comportement en moyenne, du genre de phénomènes qui se décrivent, qui apparaissent. Vous ne pouvez pas en revanche dire, voilà, il y a telle chose qui se passe à tel endroit, etc. Parce que ça supposerait que d'une certaine manière, vous avez, à un moment donné, pris avec une précision quasi infinie tout l'univers. Et ça, c'est niette.
Merci à Richard et merci à François Bouchet, cosmologue à l'Institut d'astrophysique de Paris, pour leur libre participation à ce reportage, réalisé avec la complicité de la Société d'astronomie de Nantes.
Dernière question à l'arrivée de courte. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure en interview en marchant dans les rues de Nantes ?
Qu'est-ce que j'en retiens ? Que vous êtes très insistant. je veux dire, c'est beaucoup plus... je pensais que ça allait 2-3 minutes comme ça. Non. Sinon, c'est rigolo, c'est la première fois qu'on me l'a fait. voilà, bon.